Bonjour et bienvenue dans Questions politiques. Merci d'être fidèle au rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Notre invité jusqu'à 13h, c'est le ministre le plus capé du gouvernement, indispensable sous le quinquennat de François Hollande. Il a choisi de rempiler avec Emmanuel Macron. Il était ministre de la Défense, il est depuis 2017 le chef de la diplomatie française. Il avait engagé la France sur plusieurs terrains de guerre, notamment en Afrique contre Daesh et les djihadistes. Il nous dira où en est cette guerre que les soldats français mènent au Sahel, avec quels alliés, quels moyens, quels objectifs et quels espoirs de victoire aussi. Et puis l'Europe, l'OTAN, sur laquelle il prononça un discours important il y a quelques jours à peine à Prague, les relations avec la Russie. Bref, la place de la France dans le nouvel ordre ou le nouveau désordre mondial. Question politique est en direct avec le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Pour intervenir, l'application mobile d'Inter et les réseaux avec le hashtag #QuestionPol.
France Inter, question politique, Ali Badou.
Bonjour Jean-Yves Le Drian.
Bonjour.
Et bienvenue. Beaucoup de sujets à aborder avec vous et pour vous interroger, l'équipe de questions politiques réunie à mes côtés, Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour à tous.
Marc Sémaux du journal Le Monde. Bonjour Marc.
Bonjour.
Et Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine.
Salut tout le monde.
Karine qui a préparé votre portrait, monsieur le ministre, et nous le découvrirons ensemble tout à l'heure. Beaucoup de sujets à aborder, je le disais, mais partons d'abord de l'actualité de ce sommet de Pau qui n'aura finalement pas lieu. Demain, le G5 Sahel devait se tenir en France à l'initiative du président de la République. Il a été reporté après une attaque djihadiste à Inates dans l'ouest du Niger. 71 morts, des disparus. Et encore une fois, Jean-Yves Le Drian, le doute qui s'installe sur la capacité de l'armée française et de ses alliés au Sahel à lutter contre les groupes djihadistes. Vous comprenez ce doute qui est présent dans de très nombreuses têtes, à la fois en France et dans les pays du Sahel?
Il peut y avoir un doute, mais il y a aussi une grande détermination. Parce que ce qui se joue au Sahel, c'est d'une part et la sécurité et la stabilité des 5 États du Sahel, mais même au-delà, la stabilité et la sécurité des États voisins. Et ce qui se joue au Sahel, c'est notre propre sécurité. Parce que plus on avance, plus... cet espace géographique devient la frontière sud de la sécurité de l'Europe. Donc c'est notre sécurité qui est en jeu. Et c'est un territoire qui est aussi grand que l'Europe, dont la maîtrise militaire n'est pas simple, mais c'est un territoire sur lequel il faut poursuivre l'action commune, pas uniquement celle de la France, l'action commune avec les armées des pays du Sahel, l'action commune de la communauté internationale, pour enrayer ce qui est, pour moi, aujourd'hui, ministre des Affaires étrangères, le risque, la menace la plus grave, qui est permanente, c'est la menace des groupes terroristes. Qu'ils viennent du Sahel, qu'ils viennent de Syrie, qu'ils viennent d'ailleurs, nous sommes confrontés à ce défi qui serait sans doute le défi sécuritaire le plus important de ce début du XXIe siècle.
Nathalie Saint-Cricq.
Monsieur Le Drian, vous avez dit que la France repensera son positionnement militaire si certains malentendus demeurent. Quels sont les malentendus auxquels vous faites allusion? Est-ce que notamment il n'y a pas une faiblesse du côté des chefs d'État africains, de leur organisation et de leur détermination à travailler avec la France et les pays qui sont impliqués?
Et après ce qui s'est passé à Inates au Niger, où il y a eu 71 morts, après les morts français, auxquels la nation a rendu hommage il y a peu de temps.
Le 25 novembre dernier. Le
25 novembre. Après les morts qui ont eu lieu au Mali au cours de l'année 2019. Ils sont nombreux, on n'en parle pas assez, parce qu'ils sont tous dans le même combat. Après cela, je pense qu'il faut aujourd'hui à la fois clarifier et remobiliser.
Clarifier.
Il faut clarifier, et c'était l'objet de la rencontre que le président de la République a souhaité organiser à Pau, qui va être repoussée en raison du drame qui vient de se produire au Niger. Et qui aura lieu au mois de janvier avec les 5 chefs d'État. Pas uniquement d'ailleurs avec les 5 chefs d'État. Aussi avec le président de la Commission africaine, M. Moussa Faki, et aussi avec le haut représentant, le nouveau haut représentant de l'Union européenne, M. Borrell. Et aussi le représentant des Nations unies. Il faut clarifier, à mon avis, sur 3 sujets. Avec nos partenaires. D'abord, est-ce qu'on est tous bien d'accord sur le fait que nous combattons ensemble contre un ennemi commun qui sont les groupes terroristes?
C'est pas évident.
Il faut se le dire, il faut se le redire.
C'est pas évident.
On se l'est dit en 2013, lorsque j'étais à ce moment-là ministre de la Défense, lorsque la France a été appelée au secours
au Mali,
par
Mali.
Les autorités intérimaires à l'époque du Mali. On se l'est redit de manière peut-être pas suffisamment forte au cours des dernières années. Il faut se le redire très fortement. Et ça veut dire aussi que les chefs d'État concernés le disent à leur propre population. Nous sommes dans un combat commun. Pour notre sécurité, c'est la première clarification à faire.
Et ils le font ça ou ils ne le font pas assez ?
C'est l'objet des discussions que nous aurons, que le président de la République aura avec ses collègues du G5 Sahel. Ensuite, la deuxième orientation de cette rencontre, c'est de remobiliser et de faire en sorte qu'il y ait une réelle adaptation de l'effort de guerre entre ce qui est la présence de la France.
4 500 soldats,
mais sur
un territoire aussi grand que l'Europe,
avec l'action de ce qu'on appelle la force conjointe, c'est-à-dire les éléments militaires que les pays du G5 Sahel mettent en commun pour agir contre les groupes terroristes, et aussi avec le renforcement de l'action européenne. Et puis, troisième remobilisation, troisième clarification, il faut que les enjeux politiques soient mis sur la table, c'est-à-dire que nos amis maliens disent comment est-ce que nous allons faire pour aboutir à ce que les accords d'Alger, qui datent de 2015 et qui n'ont pas encore été mis en application pour toutes sortes de raisons, comment est-ce qu'on va faire pour qu'on mette en place ces accords d'Alger très concrètement, parce que les populations les attendent. Et comment est-ce que, dans d'autres pays, on organise un dispositif inclusif pour que les rendez-vous politiques soient aussi tenus. Il y a besoin de ces trois clarifications, et le président de la République a souhaité que cela soit dit ainsi pour qu'on puisse remobiliser. Et puis, parallèlement à cela, nous avons à poursuivre notre action pour le développement. Nous avons lancé, il y a maintenant 2 ans, ce qu'on appelle l'Alliance pour le Sahel, c'est-à-dire la réunification de l'ensemble des outils qui aident au développement dans l'ensemble de la zone. Il faut que cela soit plus concret, plus fluide, plus efficace, plus permanent. Et ça fait partie aussi de l'ensemble du scénario de remobilisation que j'ai évoqué. Et je serai d'ailleurs amené à présider l'Alliance pour le Sahel à Nouakchott dans peu de temps pour faire en sorte que, à côté de la lutte militaire indispensable, il y ait aussi la lutte pour le développement qui est tout aussi indispensable.
Karine Becker, puis Marc Semo.
Moi, j'aimerais vous faire préciser les choses parce que on parle beaucoup effectivement de assurer la sécurité de la France contre ces groupes terroristes. On parle de quoi exactement ? Est-ce qu'il y a la possibilité d'actions en France ? Est-ce que c'est simplement des actions locales ? Et est-ce qu'effectivement, vous parlez de développement économique ? Est-ce qu'on n'est pas là aussi pour protéger un peu nos propres intérêts économiques sur place ?
Jean-Yves Le Drian.
Je connais bien la région, je vois relativement peu d'intérêts économiques français, en tout cas pas d'intérêts économiques qui nécessiteraient une intervention militaire, et c'est pas notre genre.
Bah peut-être pas dans ces pays-là, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie, le Tchad.
Ce sont précisément les pays concernés.
Oui, mais je sais bien, et c'est pour ça que je les précise, parce qu'on parlait tout à l'heure des 5 pays du Sahel, mais sans les préciser, donc j'en profite. Mais juste derrière, il y a des pays intéressants, la façade atlantique, le Sénégal, la Guinée, on a des ressources naturelles qu'on apprécie en France.
Ce sont des pays qui sont aussi soucieux de leur propre stabilité, de leur propre souveraineté.
Oui, bien sûr, l'idée qu'il y a de l'uranium au Niger, vous ne pouvez pas l'enlever de la tête des Nigériens et vous ne pouvez pas l'enlever de la tête de beaucoup de personnes qui pensent que la France est là-bas aussi pour veiller à ses intérêts économiques.
Nous sommes là-bas essentiellement, alors pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, sommes là-bas essentiellement, uniquement pour combattre le terrorisme. Alors,
Marc Semo.
Justement, est-ce que vous êtes quand même inquiet de cette montée d'un sentiment anti-français, et y compris non seulement des ambiguïtés de toute une partie de l'opinion sur les réseaux sociaux et tout, mais même en partie des chefs d'État qui ne font pas peut-être tout ce qu'il faut pour justement bloquer ces rumeurs et ces interprétations.
Je reviens au sujet, avant de répondre à votre question. Oui, le combat contre les groupes terroristes est majeur pour notre sécurité. Et vous avez bien voulu citer les pays au sud du Sahel, je vais vous en citer d'autres. Il y a aussi les risques d'extension de l'action de ces groupes terroristes vers le Tchad, vers le Nigeria, où il y a l'action de deux groupes terroristes qui sont Boko Haram et ISWAP, qui se réclament, au moins pour l'un d'entre eux, de Daesh. Il y a aussi les groupes terroristes qui fonctionnent en Libye. Tout cela fait un arc-en-ciel, si je peux dire, un arc plutôt pas un arc-en-ciel, un arc des groupes terroristes qui peuvent remonter jusqu'au Levant. Donc il y a vraiment, il faut que nos concitoyens le s'en rendent compte, il y a vraiment ces risques-là. Et notre combat, c'est le combat pour notre propre sécurité. Je voudrais rajouter un point, puisque vous l'aviez évoqué, l'attentat, ou est-ce que c'est un attentat ou plus largement une attaque insurrectionnelle qui a eu lieu à Inates, a été revendiquée par Daesh. Il ne faut pas l'oublier, parce que Daesh n'est pas morte. Daesh a subi des défaites. Les groupes terroristes ont subi aussi des défaites au Mali et dans le Sahel. Il ne faut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Au contraire, il y a eu beaucoup d'actions menées positives menées par nos propres forces et par les forces du G5 de Sahel. Mais il n'empêche que cette menace est là permanente et il y a un arc des groupes terroristes qui est en train de se constituer.
Et sur la montée de ce sentiment
sur la montée, moi je suis à la fois attristé de constater cela. Ça se voit sur les réseaux sociaux.
Je suis et pas seulement, aussi, même dans la presse,
même au niveau des officiels.
Quand je parlais de clarification, ça en fait partie.
Mais est-ce qu'il y a eu une maladresse du président de la République lorsqu'il a convoqué les pays du G5 Sahel à Pau ?
C'est le mot qui a été utilisé.
C'est le mot qui a été utilisé, ça a été très très mal perçu.
Il a provoqué une réunion, il me paraît logique qu'à un tel moment, le président de la République dise autour de la force Barkhane, il faut quand même qu'on fasse une clarification. Je vous invite à venir à Pau. On a eu avant des tests pour vérifier de la disponibilité des uns et des autres. Je vous rappelle que les autres réunions dans le passé sont tenu en Afrique.
Mais moi, est-ce qu'on convoque les présidents d'États souverains ? C'est ça la question. Est-ce qu'on convoque les présidents d'États souverains ?
On a provoqué cette réunion, on n'a pas convoqué.
Nathalie Sacré.
Jean-Yves Le Drian, quels sont les pays européens qui sont les plus mous pour essayer de nous aider ? Parce qu'on a bien l'impression qu'on est un peu solitaire et que c'est nous qui sommes au combat, c'est-à-dire qui sommes au plus près, alors que d'autres certes sont présents, mais plus pour des tâches moins dangereuses. Pourquoi vous ne réussissez pas ou pourquoi on ne réussit pas à les convaincre de s'y mettre ?
Je pense que la préoccupation sécuritaire par le Sud commence à être largement partagée par mes collègues européens. Je pense aussi qu'on sous-estime la présence européenne aujourd'hui. Vous avez la Grande-Bretagne, vous avez le Danemark, vous avez l'Estonie. J'étais en République tchèque il y a quelques jours. La République tchèque va nous faire participer des forces spéciales dans le dispositif qu'on va mettre en place.
Ils sont très peu nombreux,
Il y a dans d'autres instances, parce qu'il n'y a pas que la force Barkhane. Il y a aussi l'outil de formation de l'armée malienne. Qui est organisé par l'Union européenne, avec une participation extrêmement large de différents pays européens. Vous avez la présence dans la force des Nations Unies d'éléments européens, mais oui, c'est pas suffisant.
Mais monsieur le ministre, donc, la force Takuba, qui est censée regrouper les forces spéciales de plusieurs pays européens, ce qui serait quand même essentiel sur le terrain. Quand pensez-vous qu'elle sera prête et opérationnelle ?
Il y a déjà beaucoup de pays qui se sont manifestés pour participer à cette force Takuba, qui est une force qui se veut à la fois d'intervention et d'accompagnement des forces du G5 Sahel. Elle est en train de se constituer et je trouve que les réponses sont assez positives.
Elle sera opérationnelle quand, selon vous ?
À mon avis, dans quelques mois. Il faut le temps de la coordination et le temps de la mobilisation des différents pays. Mais je pense qu'au cours de l'année 2020, il sera mise en œuvre.
Question importante également que vous vouliez soulever, Marc, c'est celle de ce qui se passe au Levant autour des djihadistes français qui sont sur place, emprisonnés.
Voilà. Alors il y a donc les djihadistes français, il y en a une soixantaine au niveau des hommes combattants, qui sont actuellement emprisonnés au nord-est syrien, dans le Kurdistan syrien, sous le contrôle des forces démocratiques syriennes. Mais est-ce que vous pensez qu'une telle situation est tenable longtemps, et surtout l'idée qui reste celle de la France, qu'ils soient jugés là où ils ont commis leurs crimes, c'est-à-dire sur place, avec un transfert vers l'Irak, est-ce qu'elle est aujourd'hui encore réalisable, alors que Bagdad traîne les pieds et que la situation même en Irak devient de plus en plus chaotique, en rappelant simplement que la répression des dernières semaines a fait quasiment plus de 800 morts.
Jean-Yves Le Drian.
Je trouve qu'on sous-estime beaucoup, en ne parlant que des combattants étrangers français, le risque et les dangers que représentent aujourd'hui les combattants étrangers djihadistes de Daesh qui sont en prison ou dans des camps depuis la défaite territoriale de Daesh qui n'est intervenue, je vous le rappelle, qu'au mois de mars dernier. C'est tout récent et il y a là aux environs de 10 000 combattants qui sont en prison, dont quelques Français, dont quelques Belges, dont quelques Marocains, mais 10 000 combattants qui sont en majorité syriens et irakiens et qui sont prêts à reprendre le combat. Parce que Daesh n'est pas morte. Daesh, elle existe là, elle existe aussi de manière clandestine en Irak, d'où les interrogations sur la situation instable qui existe aujourd'hui dans ce pays. Et Daesh est prêt à reprendre le combat.
Mais donc il faut être extrêmement vigilant. Mais la France a une responsabilité vis-à-vis de ses ressortissants.
Bien sûr, elle a une responsabilité vis-à-vis de ses ressortissants, dont je voudrais rappeler ici qu'ils sont quand même des combattants contre la France.
Bien sûr.
Parfois on l'oublie. Ce sont des ennemis de la France, ils ont combattu la France.
Absolument. Est-ce qu'on peut rester dans ce statu quo?
Et je voudrais juste rappeler que les attentats qui ont été commis antérieurement n'étaient pas tous d'origine de combattants djihadistes français. C'est pour ça que je suis très préoccupé par les 10 000. Et je ne suis pas le seul. Mmh. Et donc, oui, c'est ça la réalité. Donc, oui. On se focalise beaucoup sur les 60, très bien. Il faut se focaliser. Mais il y a quand même un problème global qui, aujourd'hui, est un problème très inquiétant. C'est pour ça que j'ai commencé mon propos tout à l'heure en appelant l'attention sur le risque terroriste global qui...
Mais vous dites qu'il faut être vigilant, ça veut dire qu'il faut faire quoi?
Alors, je réponds à M. Semo quand même sur ce point. Il y a le principe de base que nous avons toujours acté, c'est les combattants français, combattantes françaises doivent être jugées là où ils ont commis leurs crimes. C'est vrai pour notre position, mais c'est vrai pour la position des autres Européens.
Mais il y a aujourd'hui aussi le protocole 15-9, comme on appelle
C'est pas la même chose.
C'est pas la même chose, mais qui permet le retour de mères, d'enfants, par exemple,
Je vais y revenir, sur le protocole 15-9. Ces acteurs-là, ces combattants de groupes djihadistes sont dans des prisons dans le nord-est syrien, et il faut qu'au moment du règlement politique, inévitablement, la question de leur jugement sera posée. Et il faut que nous la posions. Nous avons pensé qu'il était possible d'ouvrir un dispositif juridictionnel spécifique en relation avec les autorités irakiennes. Nous avons parlé avec les autorités irakiennes de ce sujet, pas uniquement pour la France, d'ailleurs pour d'autres pays européens. Aujourd'hui, vu la situation en Irak, sur laquelle on va peut-être revenir, cette hypothèse n'est pas réalisable à court terme. Eh bien, à moyen terme, il faut que ce soit réglé dans le cadre du règlement politique global qui a commencé tout doucement à Genève depuis la mise en œuvre du comité consultatif destiné à remodifier la constitution syrienne pour aboutir à un processus une feuille de route de paix dans ce pays. Nous n'en sommes pas là, mais aujourd'hui, l'ensemble de ces groupes sont dans des lieux sécurisés.
Des prisons, pour le dire rapidement,
prisons,
en Syrie, en Irak.
En Syrie.
Et ils sont fiables.
Et sécurisés par les forces démocratiques syriennes et par des éléments américains. Et nous y contribuons à notre manière pour faire en sorte que ce soit complètement sécurisé sur la durée. Le protocole 15-9, c'est autre chose. Mais avant d'en reparler, pour continuer l'observation de M. Semo, dès que nous avons pu faire ramener de ces camps des enfants isolés, des enfants vulnérables, des orphelins. Nous l'avons fait depuis mars dernier. Mais nous sommes dans des pays en guerre, dans des territoires en guerre. Et ce n'est pas uniquement facile de le dire comme cela. Il faut en plus aller les chercher. Nous sommes prêts à continuer, condition que les conditions d'accès soient rendues possibles. Mais sur le fond, nous restons très fermes sur cette position. Alors, j'ai pas dit protocole 15-9. Il se trouve qu'il y a un accord avec les Turcs. On peut faire des accords avec les Turcs. Il est respecté. Qui fait que lorsque des combattants de groupes terroristes sont sur le d'origine française sont sur le territoire turc, ce protocole fait qu'ils sont à la fois arrêtés par les autorités turques et transférés en France selon des voies et des règles très précises et ensuite judiciarisés en France.
250, c'est ça, on en aurait 250 à peu près d'après l'an.
250. Combien il y en a eu un peu plus de 200.
Est-ce que vous considérez que ceux qu'on récupère justement selon le protocole 15-9 sont des gens qu'on peut juger correctement en France? En clair, est-ce qu'on a un arsenal juridique suffisant pour pouvoir instruire un dossier?
Ne vous inquiétez pas, on documente.
Mais je m'inquiète pas, je vous demande si
on documente, bien sûr.
Si on sait, bien évidemment, ça ne pose aucun problème de juger en France.
Ça ne pose aucun problème de juger en France pour ceux qui sont transférés dans le cadre du protocole 15-9 venant de Turquie.
Marc Semo. Il y a une question aussi que vous vouliez soulever, c'est celle de l'OTAN et Monsieur Le Drian. Vous prononciez un discours il y a quelques jours à Prague, discours important non seulement sur l'avenir de l'Alliance Atlantique, mais également sur ce qu'on peut attendre, ce qu'on peut espérer ou ce qu'on peut désespérer en matière d'Europe de la défense. Après le discours et les mots très durs prononcés par le président de la République Emmanuel Macron dans le magazine The Economist quand il avait parlé d'une OTAN en état de mort cérébrale.
Et est-ce que vous comprenez l'inquiétude des pays de vous avez été rassuré, justement, avec ce diagnostic sur la mort cérébrale de l'OTAN, mais aussi, dans la même interview, le fait que le président évoquait son refus d'un élargissement vers les Balkans, pour le moment du moins, et sur le fait qu'il appelait à une relation nouvelle avec la Russie, autant d'éléments qui, mis ensemble, ont quand même créé une certaine inquiétude, aussi bien à Varsovie qu'à Prague, que dans les Pays-Baltes ou à Bucarest.
Jean-Yves Le Drian.
Vous comprenez cette inquiétude ?
Oui, mais finalement, ce sommet de l'OTAN a donné raison au président de la République. Parce que ce sommet qui vient d'avoir lieu à Londres, il avait pour vocation première, pour ça qu'il était prévu pour durer peu de temps,
c'est un anniversaire, les 70 ans de la création de l'OTAN. À la place, on a vu de la division et une famille où le ressentiment et l'acrimonie dominaient.
Non, parce qu'on a vu à la fin un document, une déclaration qui prenait en compte la nécessité de réfléchir aux orientations stratégiques de l'OTAN pour l'avenir. Et c'était le but recherché par le président de la République. On n'allait pas passer un anniversaire, se congratuler, et puis repartir chacun chez soi comme si les risques et les menaces étaient les mêmes qu'il y a 70 ans. Le président de la République, dans une formule assez provocante, a rappelé...
c'est moins qu'on puisse dire.
Oui, mais il y a des raisons à cela. A rappelé les uns et les autres à réfléchir ensemble sur les enjeux de sécurité...
Et sur le sens même de l'Alliance Atlantique.
Sur le sens, sur les fondamentaux de l'Alliance Atlantique. Parce que il y a un certain trouble... Il y a eu un certain trouble, il n'est sans doute pas évacué encore, il y a eu un certain trouble sur la force du lien transatlantique. Il y a eu des interrogations sur la place de l'Europe dans le lien transatlantique. Il y a eu des interrogations sur la solidarité entre les alliés. Le seul fait, on parlait tout à l'heure de la situation en Syrie, mais quand même, nous avons constitué une coalition contre Daesh, et puis un jour... Par hasard, on apprend que un des membres de la coalition, par ailleurs membre de l'OTAN, décide d'envahir une partie du territoire turc, du territoire syrien, pour combattre ceux qui nous ont aidés à battre les terroristes de Daesh en particulier.
À ce moment-là, vous avez dit que l'OTAN c'était fini ou pas ?
Ceux qui nous ont aidés à combattre, à reprendre Raqqa, ville d'où est parti, d'où sont partis tous les terroristes qui nous ont attaqués en France.
À ce moment-là, vous dites que l'OTAN...
Il y a quand même une question. Et que les États-Unis, dans le même temps, quasiment le même jour, disent « Nous, on se retire du nord-est syrien », alors que l'objectif de la coalition était de combattre Daesh. Donc nous avons demandé la réunion de la coalition. Finalement, nous avons, je pense, obtenu avec nos alliés européens satisfaction et les États-Unis ont décidé de rester pour continuer à combattre Daesh et l'offensive turque s'est heureusement arrêtée.
Mais oui, tout ça se combattre mais Daesh tout ça, sans mais les tout Turcs, ça, mais alors tout qu'on n'arrive même pas à se...
Tout ça se passe, on le fait avec
on les forces... On n'arrive pas à s'accorder avec les Turcs sur la définition même de ce qu'est le terrorisme.
Oui, nous sommes toujours en désaccord.
C'est stupéfiant. Au sein d'une même alliance oui, qui ça... a pour vocation d'assurer la sécurité d'un ensemble
le sujet, de pays qui en le sujet qui était posé à la... réunion de la coalition à Washington, c'est est-ce que tout le monde est bien décidé à continuer à combattre Daesh ? Finalement, la réponse a été oui, mais c'était très utile qu'elle soit posée. La même chose a été posée au niveau de l'OTAN en particulier, qu'il y ait des droits et devoirs des différents membres de l'Alliance Atlantique, les uns à l'égard des autres. Donc ce travail-là de réflexion sur la stratégie future de l'Alliance a été décidé. Il y a un groupe d'experts, de sages, si vous voulez, qui va rendre des conclusions prochainement, ils vont l'élaborer au cours de l'année 2020, pour qu'on puisse avoir une clarification de la stratégie de l'Alliance.
L'OTAN a été créée contre l'URSS. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la vocation de l'OTAN, c'est aussi de garantir la sécurité de certains pays, notamment européens, contre les risques d'agression russe ?
L'OTAN est une alliance défensive, c'est une alliance de sécurité collective, et il importe aujourd'hui d'identifier les risques et les menaces auxquels sont confrontés l'ensemble des membres de l'alliance. Non, on a toujours dit que la Russie était une menace. Nous avons dit que la Russie était une menace, parce que on l'a subi. On l'a subi par les attaques cyber, on l'a subi par le désaccord majeur que nous avons sur la Syrie, on l'a subi par des interventions chimiques, par la manipulation de l'information, par la rupture des accords concernant l'Ukraine et l'autonomie de l'Ukraine. Tout ça, c'est une réalité, il ne faut pas le nier. Mais nous considérons que la Russie aussi est incontournable, parce que la géographie est là. et qu'on ne peut pas contourner la géographie. Et donc, il faut que l'on puisse, avec la Russie, ouvrir des portes de dialogue sans nier les difficultés, sans nier les oppositions, sans nier les interrogations, sans nier les, sans naïveté. Et puis, mais une porte de dialogue permettant d'établir progressivement ce qui pourrait être une architecture de sécurité et de confiance en Europe. On est dans cette logique-là, c'est ce qui a été engagé par le président de la République lorsqu'il a reçu le président Poutine. Je ne vais pas vous dire que cet état d'esprit visant à rétablir des liens de confiance, sans nier le reste, a permis peut-être une amélioration de la situation dans la discussion sur l'Ukraine, mais en tout cas, il y a eu la semaine dernière à Paris, lundi dernier, une réunion sur l'Ukraine au niveau des chefs d'État et du gouvernement, avec Mme Merkel, le président Zelensky, le président Macron et le président Poutine, qui a permis des avancées. Donc, essayons de jouer les deux en même temps. La sécurisation, et nous prenons, nous, toute notre part sur nos engagements, en particulier à l'égard de certains pays de l'Est. Nous avons nos forces qui participent à ce qu'on appelle la présence avancée, renforcée, pour montrer notre volonté d'être ferme dans la défense de nos alliés. Et en même temps, nous essayons d'ouvrir des discussions avec la Russie sur les points sur lesquels on peut discuter. Il faut jouer en permanence des deux, la fermeté et le dialogue.
Midi et demi, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, est l'invité de Questions politiques jusqu'à 13h.
France Inter, Ali Badou. Question politique.
Au sommaire, monsieur le ministre de l'Europe, il y a évidemment le résultat des élections générales au Royaume-Uni avec la très large victoire des conservateurs et de Bojo Boris Johnson. Est-ce qu'on peut enfin dire, ça y est, c'est sûr, enfin sûr, Jean-Yves Le Drian, le Brexit aura lieu, et le dire au futur, le conjuguer au futur, le Brexit aura lieu le 31 janvier 2020.
Bah enfin, il y a de la clarté. Ça fait quand même 3 ans que ça dure, avec des interrogations, des allers-retours, des tensions, des élections, des déclarations contradictoires. Mais maintenant, nous pouvons dire qu'on va avoir une sortie ordonnée du Royaume-Uni, de l'Union européenne.
Le 31 janvier.
Le 31 janvier, je pense que les votes vont avoir lieu sur la base de l'accord de retrait qui avait été modifié par les discussions qui ont eu lieu entre Boris Johnson et l'Union européenne et qui permet de préserver l'intégrité du marché intérieur européen, qui permet d'éviter une frontière physique en Irlande, qui permet aussi de donner les garanties sur nos droits, les droits de nos citoyens européens en Grande-Bretagne et réciproquement. Bref, c'est un accord de retrait qui est bien réfléchi, bien abouti et qui devrait permettre une sortie
devrait
ordonnée.
Le 30
novembre, et il faudra qu'il soit voté aussi par le Parlement européen. Donc il va y avoir et après, c'est maintenant ça le sujet. Après, il y a une période qui, théoriquement, va durer 1 an, puisque on doit maintenant définir notre manière de vivre après le divorce.
Mais avant de parler de l'après, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous l'avez reçu, ce résultat? Est-ce qu'il est surprenant? Est-ce que vous avez été pris au débotté par cette victoire assez triomphale de Boris Johnson? On ne s'y attendait pas forcément en France.
La victoire est attendue. Il y avait sans doute une certaine lassitude des Britanniques qui voulaient en finir avec ce feuilleton qui était insupportable et où il n'y avait plus de lisibilité pour les uns et pour les autres. A-t-il eu une posture un peu radicale du parti travailliste de Monsieur Corbyn qui a sans doute éloigné d'un vote travailliste une partie des Britanniques. Bref, Boris Johnson a gagné.
Mais vous aviez compris à l'avance qu'effectivement...
On était tout à fait convaincus de la victoire de Boris Johnson.
Monsieur Le Drian, est-ce que vous diriez, comme vous l'avez dit pour Boris Johnson, enfin il y a de la clarté en Algérie? Ou alors vous allez être obligé de vous cantonner à une réponse purement diplomatique?
Dire qu'on attend de la langue de bois, puisque c'est sans doute le sujet le plus difficile à aborder pour un homme politique français, particulièrement pour le chef de la diplomatie.
Parce que c'est un pays ami, parce que c'est un pays avec lequel on a une grande
longue histoire.
Parce que c'est un pays auquel nous sommes très attachés, et je crois que c'est aussi vrai réciproquement. La France n'a qu'un souhait, et c'est pas du tout un souhait diplomatique, c'est que la poursuite de la transition démocratique puisse se faire dans le respect de la souveraineté algérienne.
Vous avez l'impression que l'Algérie est en plein processus démocratique?
Pensons que l'Algérie vit un moment crucial et qu'elle passe à une nouvelle phase de son histoire, et nous respectons la manière dont les Algériens assurent cette transition, parce que nous sommes tout à fait respectueux de la souveraineté algérienne. Alors, nous avons constaté et pris acte de la victoire de M. Tebboune, qui devrait être confirmé lors de la réunion du Conseil constitutionnel algérien lundi. Nous en prenons acte. Nous avons noté aussi qu'il
Qu'est-ce que ça veut dire, prendre acte?
Ça veut dire, nous le constatons. Donc, il y a eu un processus et il va être désigné président lundi officiellement, même si
donc aujourd'hui... Donc, c'est l'interlocuteur de la France.
Mais vous constatez...
C'est l'interlocuteur de la France.
À partir de ce moment-là, nous nous disons il y a un processus en cours. On constate aussi qu'il y a un mouvement social important. Il importe que les Algériens puissent faire en sorte que, dans ce moment crucial, le dialogue soit poursuivi. Et j'ai noté que...
C'est vrai que c'est extrêmement difficile comme exercice.
Parce que nous sommes en France et que les Algériens sont en Algérie.
Oui, mais une question
et que la souveraineté algérienne doit être respectée.
Est-ce que c'est le président dont a besoin ce pays aujourd'hui?
C'est aux Algériens qu'il faut poser la question. Merci de
s'ils le choisissent. Marc Sémo.
Oui, alors je voudrais en revenir à l'autre grand sujet de préoccupation internationale aujourd'hui, qui est la question du nucléaire iranien. Le 6 janvier prochain, Téhéran devra annoncer un nouvel accroc majeur au traité de 2015 qui mettait sous contrôle international le programme iranien. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la fenêtre d'opportunité qui avait été créée par Emmanuel Macron à Biarritz, puis à New York, en essayant d'arriver à une rencontre directe entre Donald Trump et le président iranien Hassan Rouhani? Bon, il n'y a pas eu la rencontre, mais il y a eu apparemment un accord sur un certain nombre de points cadres. Est-ce que vous pensez que cette fenêtre d'opportunité existe toujours, ou qu'aujourd'hui, on est parti vers un processus d'escalade plus ou moins irrémédiable?
Jean-Yves Le Drian.
Je pense que la fenêtre d'opportunité existe toujours. En tout cas, nous sommes toujours, quand je dis nous, c'est la France, le président de la République, mais aussi nos amis britanniques et allemands, qui sont nos partenaires européens dans l'accord de Vienne. Nous sommes toujours désireux d'aboutir à un processus de désescalade, même si, vous avez raison de le souligner, l'espace se restreint. Et même si la situation devient dangereuse, puisque nous allons être en janvier au cinquième accroc par rapport aux textes initiaux, c'est-à-dire que l'Iran prend de plus en plus de distance avec ses engagements, recommence à faire de l'enrichissement nucléaire.
Autrement dit, l'accord sur le nucléaire,
d'une certaine manière,
il
est en train de se vider de l'intérieur, et il faut empêcher qu'à un moment donné, on constate que finalement, il n'a plus de résistance à l'intérieur. Et donc, notre travail, c'est d'essayer d'éviter cette logique-là. Le président de la République a tenté un rapprochement au moment de l'Assemblée générale des Nations Unies au mois de septembre. Nous avons renouvelé nos propositions pour une désescalade et pour ramener l'Iran dans les textes réels de l'accord de Vienne. Pour l'instant, ça n'a pas abouti, mais notre porte reste ouverte à cette initiative. On continue à se parler. On souhaite que les Iraniens puissent reconnaître que ça peut être aussi leur intérêt. Parce que c'est vrai que tout ça est lié à la décision unilatérale des États-Unis de rompre l'accord. C'est une mauvaise décision, on l'a dit à plusieurs reprises. Oui. Mais c'est vrai que les réactions iraniennes aujourd'hui sont de mauvaises réactions et de mauvaises décisions. Donc il faut essayer d'interrompre ce processus, sinon on sera dans une logique qui peut être difficile. Il y a un mécanisme qui s'appelle le mécanisme de règlement des différends qui existe dans le texte de l'accord. C'est une hypothèse qui peut arriver assez rapidement que nous saisissions ce mécanisme de règlement des différends pour continuer à faire pression. Ça ne veut pas dire renouvellement des sanctions. Ça veut dire on saisit ce mécanisme pour en parler officiellement parce qu'on constate que il y a une dérive par rapport au traité et il y a des ruptures initiées par l'Iran qui vont devenir problématiques.
Question importante.
Avant qu'on arrive à la perte de substance, il faut mettre tous les éléments pour éviter que ce traité soit caduque, parce qu'à ce moment-là, il est dangereux, parce qu'à ce moment-là, dans un délai rapide, l'Iran a accès à l'arme nucléaire, et à ce moment-là, c'est dans toute la région que ça devient extrêmement difficile, extrêmement dangereux.
Et on risque d'être dans cette situation dès le mois de janvier prochain. Question aussi qui concerne l'Iran. Deux chercheurs français sont détenus depuis le mois de juin en Iran, Fariba Abdelka et Roland Marshall. Ils sont tous les deux chercheurs aux séries à Sciences Po. Est-ce que vous avez des nouvelles de ces deux chercheurs, et est-ce que leurs familles, leurs proches, leurs collègues peuvent espérer les voir libérés rapidement?
Nous sommes toujours dans une posture très exigeante à l'égard des autorités iraniennes par rapport à Roland Marshall et à Faribault Elka. C'est plusieurs fois que nous en parlons au plus haut niveau. Nous sommes en relation avec les proches et les familles de ces deux personnes et nous souhaitons vraiment que l'Iran puisse mettre fin à leur arbitraire, à leur incarcération intolérable. Je n'ai pas d'information particulière là.
Nathalie Sacré-Cœur, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que le nom même de Trump n'a pas été prononcé depuis le début de cette émission. Est-ce que ça veut dire que finalement vous faites l'impasse, et notamment dans le cas iranien, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire la diplomatie française?
À chaque entretien que le président Macron a avec le président Trump, on évoque la question iranienne. Donc,
on n'a pas cité
M. Trump nommément tout à l'heure, mais bien évidemment ça se passe à ce niveau-là, tous les sujets.
Il y a un espoir que ça progresse ou on en est toujours au même stade?
Nous sommes sur cette posture-là, sur l'Iran, faire en sorte qu'au mois de janvier, on ne dépasse pas, par cette cinquième décision, les éléments essentiels du contenu du traité.
Avant de passer au portrait, Jean-Yves Le Drian, un mot quand même pour nous parler de la politique étrangère, puisque vous avez très bien connu le sujet en travaillant avec François Hollande, maintenant avec Emmanuel Macron. Est-ce que vous diriez qu'il y a une différence entre les politiques étrangères menées sous l'ancien quinquennat et le nouveau ?
Moi, je n'étais pas en charge des affaires étrangères.
Non, mais vous connaissez le sujet par cœur.
À l'époque de François Hollande. Mais ce que je constate surtout, c'est que depuis 2 ans et demi, il se trouve que c'est cette période où je en charge la responsabilité de la politique étrangère, il y a eu une aggravation des tensions dans le monde considérable. Donc je ne peux pas vraiment faire de comparaison de situation. Il y a eu un nouveau président des États-Unis, il y a une nouvelle donne en Grande-Bretagne, il y a un raidissement de la Chine, il y a le renforcement des groupes terroristes partout dans le monde. Donc la situation est un peu différente. La volonté du président de la République, primordiale, prioritaire, et évidemment que je soutiens, que je partage, c'est d'abord et avant tout la sécurité de la France, et la sécurité des Français. C'est pourquoi j'ai commencé mon propos tout à l'heure sur les risques que font peser les différents groupes terroristes.
Et c'est pour ça que je rappelais que comme ministre de la Défense, vous avez été en pointe dans ce combat-là. Un mot encore, la place de la France dans le monde s'est renforcée ou affaiblie depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron ?
Ah, je constate que la France est devenue une référence, et que partout où nous allons dans des rencontres international ou dans des rencontres plus restreintes, la France est une référence et la posture du président de la République est très forte.
Mais c'est intéressant de voir ce que peut encore la France aujourd'hui. Un cas d'école, le Liban, où la France a des intérêts, des amitiés, une histoire longue et compliquée avec ce pays. Cette semaine, mercredi, se tenait à Paris une réunion internationale qui est destinée à aider le Liban à sortir de la crise politique. Vous pensez vraiment pouvoir aider les Libanais à sortir de l'impasse politique dans laquelle ils sont ?
Il faut qu'ils se secouent.
Enfin, ils se secouent. Les Libanais descendent dans la rue, ils manifestent.
Je parle des autorités. Il faut que les autorités politiques se secouent. Parce que nous sommes dans le pays dans une situation dramatique. Et si nous avons souhaité réunir ce qu'on appelle le groupe international de soutien du Liban à Paris cette semaine, c'est pour faire pression auprès des autorités politiques pour qu'ils trouvent une solution qui se dote d'un gouvernement. Il n'y a plus de gouvernement.
Il y a un premier ministre intérimaire qui
règle les affaires courantes. Or, le pays est dans une situation dramatique que la population voit bien. C'est la raison pour laquelle ils manifestent de manière très forte, à la fois très festive, mais aussi très exigeante. Ils veulent en finir avec un dispositif qui fait que la gouvernance était assurée par des rapports de force entre les différents clans, que par ailleurs les réformes dont ce pays a besoin, qui avaient été initiées à Paris en avril 2018 sous la responsabilité, sous l'invitation française, en disant voilà ce sur quoi on peut se mettre d'accord et voilà comment on peut vous aider. Nous avions mobilisé à l'époque 10 milliards d'euros pour permettre au Liban de sortir de la crise, mais les réformes qui étaient normalement liées à ces engagements-là n'ont pas été mises en œuvre. La population manifeste, on la comprend. Mais ce qui frappe le plus, c'est le fait que les manifestations dépassent les clivages antérieurs qui existaient au Liban, entre les religions, entre les géographies, les ethnies. On a les clans, on a une nouvelle donne
Une contestation inédite, en l'occurrence, contre l'ensemble de la classe dirigeante qui est jugée corrompue
mais et aujourd'hui, dans quelques temps, le pays aura du mal à s'approvisionner en matières essentielles. Des entreprises commencent à ne plus payer les salaires. Bref, il est très urgent d'agir. Et j'espère que le président Aoun a annoncé qu'à partir de demain, il allait reprendre des consultations. Je souhaite que ça puisse aboutir pour Noël.
Il est 12h45, votre portrait Jean-Yves Le Drian, signé Karine Bécard.
Vous faites de la politique, Jean-Yves Le Drian, depuis pratiquement 45 ans. Ce qui signifie probablement que l'ancien socialiste que vous avez été a su développer une vraie capacité à résister. Mais ce qui peut paraître surprenant, c'est que vous soyez encore membre de ce gouvernement, parce qu'il penche à droite de plus en plus sérieusement, et parce qu'il bouscule souvent Laurent Berger, un pur social-démocrate comme vous les aimez. Donc on peut se demander, Jean-Yves Le Drian, pourquoi est-ce que vous restez ? Peut-être pour devenir Premier ministre. C'est vrai que l'an passé, face aux Gilets jaunes...
Ne parlez pas de manœuvre, disait Jean-Yves Le Drian.
Donc je reprends, c'est vrai que l'an passé, face aux Gilets jaunes, votre profil social et expérimenté aurait pu intéresser l'Élysée, mais ça n'a pas marché. À la place, il vous a été demandé de constituer un pôle de gauche au sein de la majorité, sauf que les instruments politiques, ça ne vous a jamais franchement attiré, et l'opération du coup a jusqu'ici été plutôt ratée. Autrement dit, en Macronie, vous donnez l'impression d'assez peu peser, de ne pas trop exister, Jean-Yves Le Drian, alors que sous François Hollande, le ministre de la Défense était un homme écouté et sur tous les sujets.
Il faut mener des réformes de fond, il faut faire le redressement des finances publiques, il faut relancer notre capacité industrielle, il faut faire en sorte que le dialogue social soit efficace. Tout cela est difficile, mais il faut un chef de l'État qui soit courageux et déterminé. Les Français le reconnaîtront à la fin de l'histoire,
d'accord.
J'en suis convaincu.
Aujourd'hui, avec François Hollande, vos relations ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont inexistantes. Effacer les 30 années de complicité, auriez-vous oublié cette dernière journée quand il quitte le palais de l'Élysée et qu'il invite tous les Hollandais, les vrais, à déjeuner avec lui, vous en faisiez partie. Pourtant, 3 jours plus tard, l'ancien maire de Lorient que vous avez été se retrouve cette fois nommé ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et désormais, Jean-Yves Le Drian, à 72 ans, c'est vous, effectivement, qui dirigez le Quai d'Orsay, du moins officiellement, parce qu'en réalité, la diplomatie est toujours en France, l'affaire des présidents, et vous avez beau savoir très habilement utiliser vos réseaux, ce n'est pas vous qui décidez, qui définissez notre politique vis-à-vis de l'étranger. Mais vous continuez comme s'il était impossible d'arrêter, et visiblement, tant pis si vous n'apparaissez plus comme un ministre pilier.
Réaction Jean-Yves Le Drian.
J'ai d'abord une réaction sur le passé. Je crois que j'ai eu l'occasion de le dire déjà à plusieurs reprises. Sous le quinquennat de François Hollande, il y a eu un sabotage organisé qui ont abouti à ce que François Hollande n'a pu se représenter. Les frondeurs. Je considère aujourd'hui que les frondeurs ont détruit de l'intérieur le Parti Socialiste, ont abouti à ce résultat calamiteux de l'élection présidentielle et ont empêché, sur la durée, François Hollande d'accomplir son travail. J'ai un jugement très dur, mais j'ai été au Parti Socialiste pendant 44 ans, donc je peux me permettre de le dire. Et si on en est arrivé là, c'est bien par cette logique d'autosuicide qui s'est manifestée. Je voulais vous dire ça parce que j'en ai gros sur la patate, comme on dit. Mais voilà, c'est ça la réalité. Et qu'au moment de l'élection présidentielle, le risque majeur était le risque du populisme, le risque de la droite la plus conservatrice et le risque d'une réserve très forte à l'égard de l'Europe. Et le fait que Emmanuel Macron portait à la fois cette volonté de rassembler, de protéger, d'affirmer aussi une dimension européenne pour la France m'a paru la seule voie. Et je ne regrette pas, figurez-vous.
Mais ça, c'était au début.
Non,
est-ce
mais
que
c'est
vous êtes
toujours
à l'aise,
comme ça. Moi, je suis très à l'aise
dans ce gouvernement.
Ouais. à l'égard de la posture...
Parlez bien dans le micro, monsieur le ministre.
La posture que pourrait avoir le président de la République par rapport à la diplomatie, que moi je serais dans le suivi, ben oui, mais c'est le rôle de la ministre des Affaires étrangères. Le rôle de la ministre des Affaires étrangères, c'est d'aider le président à prendre des décisions et d'assurer ensuite le suivi de ses décisions. Mais c'est le président de la République qui assure ses responsabilités. Et honnêtement, depuis le début, j'ai toujours été en accord avec ce qu'il faisait, l'initiative qu'il prenait. Mais il prend beaucoup d'initiatives. Il est un élément très tonique sur la politique étrangère de notre pays, y compris sur le Quai d'Orsay. Et c'est bien ainsi, la France a pris sa place, prend toute sa place dans l'initiative. C'est nous qui organisons le forum sur le Liban, c'est nous qui prenons les initiatives à l'égard de l'Iran. Bref, nous sommes des acteurs.
Attendez. Juste, tout à l'heure, Karine a parlé de vos origines, de votre philosophie politique. Est-ce que vous êtes, comme vous le dites, parfaitement à l'aise quand vous voyez le dossier des retraites et que vous voyez Laurent Berger, Édouard Philippe être à couteau tiré et qu'en gros, on renvoie la CFDT du côté de la CGT? Est-ce que vous ne vous dites pas, ça serait quand même bien que tout le monde travaille ensemble, il faut faire une ouverture?
Écoutez, quand je vois d'abord ce que dit la droite sur les retraites, je pense que ça ne se dit pas assez, donc il faut que j'en parle.
Je parle
de Monsieur François Fillon et qui, dont les propos à la dernière présidentielle étaient très clairs. Et je parle des relais maintenant de François Fillon au niveau du groupe LR.
On les entend à peine.
Oui, mais enfin, il faut les entendre. Parce que qu'est-ce qu'ils proposent, eux? La retraite à taux plein qu'à 65 ans. Non, mais je le dis parce qu'il faut que les Français sachent.
Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, vient de la droite. Il a même été candidat à la primaire. Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, vient de la droite.
Je sais tout ça, je sais d'où je viens aussi.
Donc quand vous parlez de la droite, c'est pas évident.
Je veux dire que la droite aujourd'hui, c'est ça, plus la retraite par capitalisation. C'est ce dont nous ne voulons pas. Et je considère que la réforme des retraites telle qu'elle est proposée, là, permet...
Est-ce qu'il ne faut pas tout faire pour récupérer Laurent Berger quand même.
Laurent Berger est un de mes amis. J'en parle en connaissance de cause. Je suis très respectueux de sa personne, mais aussi de son organisation syndicale. Je pense qu'ils ont... c'est une organisation syndicale qui a souvent des propositions courageuses, mais aussi dans l'intérêt de l'ensemble de la population, et aussi dans l'intérêt des propres syndiqués, mais aussi de l'ensemble de la population.
Est-ce qu'il est maltraité ?
Je respecte beaucoup Laurent Berger. Je constate que sur la réforme des retraites telle qu'elle est proposée par le Premier ministre, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels Laurent Berger est d'accord. Parce que dans cette affaire-là, excusez-moi, mais ça me fait penser à des rencontres que j'ai eues avant l'annonce de la réforme dans ma région avec des jeunes.
En Bretagne.
Qui me disaient, oui, je crois que chacun le sait, mais qui me disaient, je veux bien en faire
la promotion,
mais c'est pas le sujet. J'ai grand plaisir à en faire la promotion d'ailleurs. Mais je rencontrais des jeunes qui me disaient, mais de toute façon, votre affaire de retraite là, de toute façon, nous on n'aura pas le droit à la retraite. Il y avait une espèce de fatalisme et de perte de confiance dans le système des retraites. Pourquoi ? Parce qu'en grande partie, on a dû refaire des mesures tous les 3 ou 4 ans, tous les gouvernements qui se sont précédés, pour aboutir à combler des difficultés, et que malgré tout, c'était pas suffisant et qu'il fallait recommencer. Là, nous sommes dans une nouvelle donne. Et nous sommes dans une nouvelle donne avec un dispositif de réforme de fond qui permet...
Et avec la rupture avec le premier syndicat de France qui soutenait la réforme.
Je vais quand même vous dire les choses, si je peux parler.
Et qui va manifester mardi. Donc il y a un problème quand même.
Retraite par répartition maintenue. Faire en sorte que sur les partenaires sociaux qui gèrent la caisse de retraite du régime universel qui va se mettre en place, garantie. Faire en sorte que la même règle soit pour tout le monde et que le point qui est une revendication forte de la CFDT, de mon ami Gaston Berger, puisse être la référence et qu'il fasse en sorte
que chaque... Ce n'est pas nous que vous devez convaincre, Jean-Yves Le Drian, c'est votre ami Laurent Berger, en l'occurrence. Vous lui dites, retourne à la table des négociations, ne manifeste pas mardi.
Je parle là aux Français, si j'ai bien compris. C'est pas uniquement à Laurent Berger.
Mais en l'occurrence, on vous
interroge sur Laurent Berger. Est-ce que ça vous brise le cœur de voir ce qui se passe ce moment.
Je dis ça parce qu'il faut le dire. Le nouveau dispositif permet la même règle pour tout le monde. Et puis, ce nouveau dispositif permet aussi de s'adapter aux nouvelles donnes du marché du travail.
La langue de bois est peut-être
mais c'est
aussi,
pas la langue de bois, ça.
Aussi dur que quand vous parlez d'Algérie, Jean-Yves Le Drian.
Je vais vous parler de M. Laurent Berger, mais c'est pas la langue de bois.
Non, mais prenez aussi
c'est
M. Édouard Philippe.
C'est la des sujets sur lesquels Laurent Berger est d'accord.
D'accord. Voilà.
Je vais poursuivre en vous disant que par ailleurs, cette réforme.
Comme à l'Assemblée générale des Nations Unies.
Par ailleurs, cette réforme permet beaucoup d'avancées dans le domaine de la pénibilité, permet beaucoup d'avancées avec le minimum de retraite à 1000 euros, permet beaucoup d'avancées pour la prise en compte des situations des femmes, permet beaucoup d'avancées sur la bonification pour les enfants, permet beaucoup d'avancées sur les pensions de réversion. Bref, il y a un ensemble de mesures sociales considérables. Et c'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, que Laurent Berger est d'accord.
Et donc puisqu'il le dit en allant manifester,
je l'ai lu ce matin, il va manifester en souhaitant que régime à points, le régime universel, soit maintenu.
Il suffisait d'enlever ces 64.
Voilà l'enjeu. Et c'est un enjeu considérable pour la sécurité des Français.
On a le sentiment que l'enjeu aujourd'hui
sociale, c'est tout à fait essentiel.
Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Il reste 3 minutes. Encore quelques questions à vous poser, Jean-Yves Le Drian.
Je voulais poursuivre par rapport à votre question. Dans tout cela, ce n'est pas d'abord la question de l'équilibre qui est au centre. C'est une refonte considérable du système qui permet, dans les dizaines et dizaines d'années, de trouver un autre système par répartition qui soit à la fois juste, équitable, universel, mais aussi responsable. Et il faut poser la question de l'équilibre. On ne peut pas avancer dans une réforme aussi importante sans poser la question de l'équilibre. La question de l'équilibre, elle est sur la table. Le corps avait proposé qu'il y ait cet âge pivot à 64 ans. Le Premier ministre l'a repris, mais il a dit en même temps, s'il y a d'autres hypothèses, ma porte est ouverte. La négociation continue. C'est ça que je voudrais vous dire. La négociation n'est pas fermée. Il y a un projet sur la table. Il est là. Il y aura ensuite un débat au Parlement. Mais d'ici le passage au Conseil des ministres du texte, parce que pour l'instant, il n'y a pas le texte, il n'y a que l'architecture générale.
En attendant, il y a encore un mouvement social qui est largement soutenu par l'opinion. Il y a des grèves.
L'intérêt du mouvement social, c'est aussi de mettre sur la table beaucoup de sujets.
Les
organisations réformistes, que ce soit d'ailleurs la CFDT, l'UNSA ou la CFTC, sont d'accord sur l'architecture de fond. La question qui est posée, c'est celle de l'équilibre. Et sur ce point, le Premier ministre a dit « Ma porte est ouverte pour qu'on nous discute ». D'ailleurs, il va y avoir des discussions dès lundi. Donc, la négociation, la concertation se poursuit.
Puisque tout est sur la table, est-ce que Paul Delevoye peut rester après les récentes choses que nous avons apprises, à savoir sa participation à 13.
J'ai vu que le Premier ministre lui avait estimé ce matin qu'il était de bonne foi.
Je crois que c'est
un homme de bonne foi.
Il peut rester et continuer à négocier sans que ça pose vraiment de problème.
C'est au Premier ministre de le dire, mais il a donné des précisions sur. Et puis là.
Non, mais vous connaissez parfaitement la politique. Est-ce qu'il a encore une crédibilité
sur la haute
autorité.
Donc le Premier ministre lui a renouvelé sa confiance. Moi, je respecte le Premier ministre.
Mais qu'est-ce qui est plus grave quand même? Organiser des dîners à l'Assemblée ou effectivement enfreindre la Constitution? Parce que ce qui s'est passé, parce que M. Delevoye préside un think tank tout en étant ministre au sein du gouvernement. Il avait juste pas le droit de le faire.
Il a déclaré rembourser ce qu'il n'aurait pas dû toucher à ce moment-là, et il a déclaré à la haute autorité se mettre à jour de toutes les présidences bénévoles qu'il exerçait. Il y en avait de nombreuses.
Jean-Yves Le Drian, vous avez réussi à faire ce que personne en France n'avait réussi à faire. Vous avez réussi à vendre des dizaines de Rafales à des pays étrangers qui n'en voulaient pas depuis des décennies. C'était sous le quinquennat de François Hollande. Et depuis, plus rien. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous étiez le meilleur commercial du pays.
Depuis, les chiffres du commerce extérieur se sont améliorés globalement, et donc je m'en réjouis, mais je ne suis pas chargé spécialement des capacités militaires des pays et puis du partenariat avec les industries de défense pour faire en sorte que nos qualités capacitaires soient mises en avant auprès de partenaires étrangers, mais les relations que je peux avoir avec beaucoup de pays étrangers sur un certain nombre de grands enjeux économiques sont bonnes. Je ne parle pas uniquement du matériel militaire, je parle du métro, je parle du train, je parle de l'agroalimentaire. Lorsque je vais à Pékin il y a quelques jours et qu'on a un accord sur les exportations de porc avec ce pays, je trouve que je fais une avancée.
Merci infiniment Jean-Yves Le Drian et bon bon dimanche. Merci d'avoir répondu à nos questions. L'émission se termine. Merci à Alexandre Gilardi et à toute l'équipe technique de Questions Paul. Merci à tous les trois et je vous indique qu'on se retrouvera à la rentrée le 5 janvier. Questions politiques, première édition, sera présentée par Karine Bécard. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.
Bonne année.
Bonne année d'avance. Bonne fête.